Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette conférence à propos de notre ami et artiste Lingong. Avant toute chose, permettez-moi de remercier la librairie Mola et particulièrement Corinne Krabos et Paul Roger qui nous ont immédiatement, lorsqu'on leur a parlé de notre projet, accueillis avec beaucoup de gentillesse et sans réserve. Et aujourd'hui, on voit à quel point les conférences chez Mola ont d'emblée du succès, puisque vous êtes nombreux à être là ce soir, et nous vous en remercions. Brièvement, un petit mot, nous sommes l'association Escale, Escale des artistes et Bordeaux, dont je suis un des membres du bureau, et nous avons fondé cette association il y a maintenant 3 ans, pour promouvoir l'œuvre d'artistes ayant ou ayant eu un lien avec Bordeaux. Et le premier artiste dont nous avons souhaité nous occuper, et qui, je peux dire, est à l'origine même de cette idée, c'est Lingong, qui est ici ce soir, parce que Lingong a vécu à Bordeaux de 1986 à 92, mais je n'en dirai pas plus, notre conférencière vous racontera certainement cela. Et ayant vécu à Bordeaux de 86 à 92, il a immédiatement, et ça c'est dû à sa grande qualité humaine, en dehors de sa qualité artistique, il a immédiatement fédéré autour de lui un nombre important de collectionneurs et qui sont en plus devenus ses amis. Et ce sont ces collectionneurs-là qui ont eu l'idée, il y a 3 ans, de se regrouper en association pour essayer de faire venir Lingong à Bordeaux pour une exposition, parce que par amitié, il est déjà revenu à Bordeaux plusieurs fois. Nous avons beaucoup travaillé pour monter cette exposition qui va donc avoir lieu au Château d'Issan du 3 juin au 26 juillet. Et je voudrais remercier... Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous lever, Virginie ? Juste une seconde. Remercier Virginie Cruz et le château d'Issan, qui est donc situé à Cantenac, dans le Médoc, qui est à une demi-heure de Bordeaux en voiture, par une très jolie route. Le château d'Issan nous a accueillis et nous a permis de réaliser cette exposition. Donc nous ne doutons pas que si vous êtes là à cette conférence ce soir, vous aurez le plaisir et vous aurez envie de venir découvrir cette exposition qui, en plus, est remarquablement scénographiée par Danielle Martinez, dont on connaît le talent qu'elle exerce à la base sous-marine. Je remercie donc grandement Lingong d'être là ce soir. Je sais qu'il n'aime pas du tout être en représentation, donc c'est un grand honneur qu'il nous fait. Et puis, bien sûr, je voudrais vous présenter, avant de lui passer la parole, Laurence Chevalier, qui est également membre du bureau de notre association et qui est docteur en histoire de l'art et qui nous fait l'amitié de nous suivre dans cette aventure depuis maintenant 3 ans. Vous aurez d'ailleurs l'occasion, pour ceux d'entre vous qui aurait l'idée saugrenue d'acheter le catalogue, de lire un texte de Laurence dans le catalogue, un très joli texte de Laurence sur sa rencontre avec Lingong, et qui ce soir va nous parler de l'œuvre de Lingong en général et de l'exposition donc du 3 juin au 26 juillet au château d'Issan, d'œuvres originales que Lingong donc a spécialement peintes pour cette occasion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Lingong, avant qu'on passe la parole à Laurence?
Merci beaucoup à vous tous. Vous m'avez appris beaucoup de choses depuis longtemps. Vous savez, depuis 30 ans presque. Merci à Mola aussi pour cette occasion. Je suis comme vous, écoutez Laurence qui va faire un...
Bon, donc moi aussi je vais remercier Mola et vous tous ici présents d'être venus écouter ce que j'ai envie de vous présenter sur Lingong. Alors, quelques-uns me connaissent ici dans l'Assemblée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais préciser avant de commencer que c'est un regard très personnel que je vais poser sur Lingong, que je vais vous proposer. C'est peut-être quelques clés d'entrée dans son univers. Je n'ambitionne pas de tout vous dire de Lingong et je n'ambitionne pas de tout comprendre de Lingong. Donc c'est vraiment un point de vue, un regard. Et c'est ce regard que je voudrais partager avec vous ce soir. Voilà. Alors en introduction, je vais revenir un tout petit peu sur ce que disait Pascal tout à l'heure. Rappeler un peu les éléments biographiques de Lingong. Donc Lingong est un peintre qui est né à Shanghai. dans un port qui a beaucoup évolué depuis sa naissance, une ville qui a beaucoup changé, qui a toujours eu ce caractère cosmopolite. Et dans cette ville, ce sont des études de beaux-arts qu'il va faire et qui vont le mener particulièrement à réinterpréter, réinventer, revoir cette peinture traditionnelle chinoise et ce travail très particulier du papier de riz, de l'encre de Chine. Fort de ce travail-là, Lin Gong, comme ses compatriotes s'ouvrant à l'Occident et aux artistes occidentaux, va décider de faire ce voyage vers l'Occident et de venir à notre rencontre. Et c'est donc à Bordeaux, en 86, qu'il arrive, où il reste qu'en 92, où il va faire une très belle production d'œuvres. Et finalement, cet artiste voyageur va confronter sa propre tradition, ses propres origines, eh bien, aux nôtres, et tenter de créer peut-être un dialogue entre ses œuvres. Et ce dialogue va nourrir le début de sa création. Et ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est comment ce dialogue est resté, s'est maintenu, et en même temps, certainement, comment il a évolué, comment il s'est transformé, et comment l'exposition 10 ans montre un Lin Gong riche. Et je le remercie de ce qu'il a dit précédemment, parce que très gentiment, il lui a dit qu'on lui avait appris beaucoup de choses. Mais nous aussi, en regardant ses œuvres, je crois qu'on apprend beaucoup de choses. Donc c'est cela que je voudrais faire avec vous ce soir, tenter de vous présenter ce regard et une partie de ce travail, et particulièrement donc fondée sur les œuvres de l'exposition. Donc je ne vous montrerai pas beaucoup d'œuvres de l'exposition pour laisser évidemment le plaisir de la découverte à ceux qui nous feront le plaisir de venir voir l'exposition directement au château. Alors, je vais aborder peut-être cette question-là en deux points. La première, finalement, ce serait d'essayer de comprendre ou de resituer Lin Gong dans une histoire de la peinture chinoise, essayer de voir si on peut le faire, si on peut le positionner et à quel endroit on le positionnerait. Et dans un deuxième temps, finalement, ben voilà, vous proposer ce regard qui est le mien, c'est-à-dire essayer de caractériser au travers de quelques exemples son travail. Et à ce moment-là, c'est vraiment mes impressions que je partagerai avec vous, voilà, et que je serai ravie de poursuivre dans une discussion après cette présentation. Alors, pour resituer Lin Gong, j'utiliserai les mots et le travail d'une amie de l'association Escale qui s'appelle Laure Rebeau, qui nous a fait l'amitié de faire l'avant-propos du catalogue et qui est experte de la peinture chinoise contemporaine. Et Laure Rebeau explique très régulièrement dans les textes qu'elle écrit sur Lin Gong et sur la peinture chinoise, que cette peinture chinoise, finalement, s'est ouverte à nous, Européens, Occidentaux, depuis une quinzaine d'années, et que dans cette peinture chinoise, finalement, deux grands courants émergent. Les artistes qui sont venus à la recherche et à la découverte de nos techniques, qui étaient moins connues, ou en tout cas qui ont mis un petit peu plus de temps peut-être à arriver en Chine, et particulièrement les huiles, les aquarelles et les acryliques. Et donc, on va voir comme ça une partie de ces artistes qui va s'illustrer au travers de ces nouvelles matières, de ces nouveaux, finalement, techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des techniques qu'ils ne connaissaient pas, évidemment, ils vont tenter de les renouveler, de les réinterpréter par ce regard neuf qu'ils vont poser dessus. Et puis, il y a un deuxième courant qui, lui, va rester plus attaché à la tradition chinoise, et notamment donc à cette peinture sur papier de riz, à l'encre de Chine, et à des sujets très attachés à la tradition, et notamment des sujets issus des poésies, des dynasties de Song, Tang, et une peinture très marquée par le paysage. Et nous allons nous rendre compte, je l'espère, au travers de ma présentation, que Lin Gong, comme l'explique très 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 bien Laure Rebeau, finalement ne correspond ni vraiment à l'une, ni vraiment à l'autre, et tente de faire la fusion. Et dans son regard qu'elle porte sur Lin Gong, elle nous explique que l'originalité de Lin Gong, c'est qu'il est le seul, en fait, à mélanger ces deux traditions, à mélanger ces deux courants et à tenter de créer sa peinture avec ces deux regards et en créant finalement la fusion de ces deux regards. Donc c'était intéressant, je crois, pour commencer, de le positionner un peu et de montrer que, finalement, aujourd'hui, il apparaît comme un artiste original, non pas parce qu'il est finalement dans ce refus d'une tradition, mais au contraire parce qu'il a intégré nos deux héritages. Et c'est en intégrant nos deux héritages que maintenant je vais regarder quelques œuvres avec vous et vous proposer mon regard. Alors, Lin Gong, c'est un artiste qui s'est nourri par le voyage, qui s'est nourri du voyage. Son esthétique est donc entièrement, hein, évidemment, fondée sur ce voyage. Et ce qui est, je crois, assez intéressant à relever, pour moi, il y a deux originalités dans le travail de Lingong. Il y a l'originalité du travail de la matière, du travail de la technique, du technicien. Donc, ça sera le premier regard que je vais poser. Et puis, il y a une autre originalité, c'est les thématiques. Donc, ça sera le deuxième regard que je vais poser, c'est le deuxième élément que je vais regarder avec vous. Alors, en ce qui concerne la technique, je voudrais peut-être commencer par une œuvre comme celle-ci, qui est intéressante. Ce paysage, si vous le regardez bien, révèle un travail technique qui mêle plusieurs traditions, où l'on sent bien entendu à la fois le regard vers le passé et vers la modernité, à la fois le regard vers l'Occident et vers l'Orient, mais ce regard évidemment est transcendé. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que finalement, on crée une dimension qui est la dimension de Lingong, qui est l'univers de Lingong. Et dans cet univers, vers là, ce qu'il ressort, c'est son travail sur la matière, un travail qui est marqué par plusieurs effets, et parmi ces effets, il y en a un qui est tout à fait notable ici, c'est comment Lingong, en mélangeant de la poudre de marbre à son matériau de base, l'acrylique ou l'huile, crée une autre dimension dans la toile, nous invite finalement à regarder au-delà de l'image représentée et crée une autre dimension. Alors, regardons par exemple ce paysage ici, aux tonalités qui nous rappellent évidemment nos palettes chromatiques européennes, occidentales. Dans un paysage comme celui-ci, ce qui va être intéressant dans le travail technique, c'est de regarder les coulures, de regarder la façon évidemment dont l'artiste s'exprime et pose ici la matière. Et cette matière va devenir à part entière un dialogue, un discours avec nous et une façon finalement d'entrer dans son univers et dans sa peinture. Donc la technique est au cœur de son travail, et cette technique, c'est pas surprenant qu'elle soit au cœur de son travail, parce que quand on se souvient de sa formation à Shanghai, on se souvient qu'il est professeur de peinture traditionnelle chinoise, et on imagine, enfin j'imagine assez facilement que ce travail sur la matière l'a occupé des heures et des heures, et ce travail sur la matière des heures et des heures l'a rendu libre finalement, et donc aujourd'hui cette liberté lui permet aussi par la matière d'exprimer des choses et de véhiculer finalement des choses et de nous inviter à pénétrer son univers aussi par cet élément-là. Donc ce premier point, ce premier regard que je voulais poser, c'était celui-ci sur la matière. Il y a un deuxième regard sur la matière que je trouve intéressant. On peut l'illustrer au travers de ce paysage en tonalité jaune, au milieu duquel, vous le devinez, il y a une construction ici. Ce qui est intéressant, c'est que libéré de ce travail maîtrisé, Lingong, finalement, en arrive, selon moi, à un univers qui n'est ni abstrait, ni figuratif. Et là encore, ne sachant pas réellement comment l'exprimer, j'aime à utiliser cette expression d'une autre dimension, d'une autre possibilité, d'une autre proposition. Et donc, on n'est ni vraiment dans du figuratif, ni vraiment dans de l'abstrait, et on n'est ni vraiment éveillé, ni vraiment endormi, et on est invité finalement par ce travail de la matière à pénétrer son univers. Alors, la matière est évidemment un élément fondamental, en tout cas selon moi, pour découvrir le travail de Lingong. Il y en a un deuxième, selon moi, qui est très important, c'est les thématiques qu'aborde Lingong. À l'exposition à Issan, on a la chance qu'il soit venu avec des paysages, de très beaux paysages. Je crois que le paysage est au cœur de son travail. Mais il y a une deuxième thématique présente à cette exposition à Issan, c'est la nature morte. Et je voulais, là aussi, vous montrer dans la nature morte, eh bien, qu'on a affaire à un peintre qui, fort de ses deux héritages, va tenter finalement de réinterpréter ce thème de la nature morte. Je ne vous en ai pas amené beaucoup, alors je suis vraiment désolée parce que l'idéal, vous le savez, quand on fait une projection, on a beaucoup de pertes entre l'image et ce qui est projeté. Et à la fin, j'adorerais vous présenter les images sur mon ordinateur, parce que vous verriez qu'il y a une lumière et il y a une force colorée beaucoup plus importante. Ici, c'est un peu affadi, en fait, hein, par la vidéoprojection. Hein. Mais si vous le voulez, hein, tout à l'heure, c'est avec plaisir que je repasserai les images en petit groupe pour que vous preniez la mesure, justement, de ce travail coloré. Et ce qui est intéressant dans une œuvre comme celle-ci, dans cette nature morte, c'est comment, finalement, Lingong va totalement réinventer réinventer la nature morte. Alors, bien sûr, par ce travail de la matière, c'est pour ça que je voulais commencer par cela, mais pas uniquement. Si vous regardez bien ici, bien sûr qu'on reconnaît le sujet, il n'y a aucun problème, mais il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse profondément, c'est la mise en scène de cette nature morte, et notamment cette sorte de tableau dans le tableau, puisqu'on voit que la nature morte semble poser sur quelque chose, et ce quelque chose devient presque un autre cadre, une autre dimension dans l'œuvre, comme s'il y avait une œuvre dans l'œuvre. Et c'est pour ça que, depuis tout à l'heure, hein, mon regard à moi, en tout cas, il est là, hein, c'est l'idée, hein, d'être dans des tableaux dans le tableau. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit, et puis il y a peut-être ce qu'on nous pousse par l'émotion et par la matière à voir. Et j'aime à croire, et en tout cas, moi, j'en suis assez convaincue, que chacun de nous, finalement, peut-être y trouve quelque chose et va y voir quelque chose dans ces tableaux, dans le tableau. Alors, parmi les natures mortes qui sont présentées, il y a celles qui étaient précédemment montrées. Évidemment, là, c'était plus un sujet plus évident, un sujet évidemment d'un bouquet. Là, ici, il se passe d'autres choses. C'est d'autres choses qui sont convoquées sur cette nature morte. Et notamment, ce qui, moi, m'interpelle énormément, alors, vous remarquez les coulures, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a d'autres toiles où on le verra, bien sûr. Vous remarquez les coulures, mais ce qui m'intéresse, moi, ici, beaucoup, c'est, encore une fois, comment les choses semblent suspendues, hein, comment la nature morte semble suspendue. Ici, les objets de la nature morte semblent suspendus. Et alors, encore une fois, bien sûr, c'est mon regard, hein, mais ce qui, moi, me fascine, c'est que je connais quelques natures mortes de la fin de la carrière de Dali, où on a justement cette suspension, cette espèce de caractère intemporel de l'image. Et en ayant ce ressort-là, peut-être que c'est une façon, encore une fois, de totalement réinterpréter la nature morte et de nous pousser, finalement, à y voir autre chose que ce qui, a priori, est représenté sur la toile. Donc, la nature morte, hein, j'espère que vous viendrez haïssant et vous verrez la qualité des œuvres parce qu'il y a toujours cette perte et vous verrez ce travail sur la nature morte qui est tout à fait fascinant. La thématique, quoi qu'il en soit, qui sera dominante à l'exposition et qui, je crois, est assez dominante dans le travail de Lingong, c'est le paysage. Alors, pourquoi le paysage, on peut essayer de chercher à le comprendre, peut-être parce qu'il y a une tradition chinoise qui est le shenshui et que certainement ce shenshui à motiver, à influencer, à porter le travail de Lingong. Mais ce qui est intéressant aussi dans le paysage, c'est que finalement, c'est d'autres traditions qui peuvent être convoquées. Et quand on regarde la mise en couleur, quand on regarde la mise en lumière, eh bien, on peut penser pour certains tableaux à l'école de Barbizon et pour d'autres à l'impressionnisme, en tout cas à la chaleur des couleurs de l'impressionnisme. Et donc, encore une fois, une thématique qui nous permet de trouver ces liens, qui nous permet de trouver ces passerelles et qui nous permet de trouver finalement ce langage universel capable de parler à nous et finalement aussi à d'autres. Et donc c'est aussi au travers du paysage qu'on va ressentir cet élément-là. Autre élément qu'on ressent dans le paysage par cette peau, donc moi j'aime bien appeler ça ainsi, cette matière hein, qui est mélangée à l'acrylique ou à l'huile et qui crée cette autre dimension, pour moi aussi ça devient presque une peau au tableau. Hein. Et ce qui est intéressant dans cette peau, c'est qu'elle va nous interpeller, et là peut-être encore une fois, chacun de nous dans ce paysage va peut-être y voir quelque chose de la tradition chinoise, va peut-être aussi y découvrir quelque chose qui lui est totalement intime et personnel. Et là, ce qui, je crois, fait l'universalité de son langage, c'est finalement d'atteindre à ce degré de poésie, c'est-à-dire de proposer le tableau, l'huile ou l'acrylique, comme un objet de poésie dans lequel finalement chacun de nous va pouvoir se perdre et va pouvoir trouver son chemin dans ces paysages. Et dans ces paysages, alors excusez-moi, j'en ai amené d'autres, celui-ci vous l'avez déjà vu, pardon. Voilà, il y en a un qui est quand même assez fascinant et qui résume assez bien, je crois, ce que je viens de dire, les deux arguments, les deux originalités, hein, la matière et la thématique. Hein. Vous avez ici ces coulures, vous avez ici quelque chose qui est assez intéressant sur le travail. Si j'osais, je demanderais même à Lingong s'il y avait des envies de ne pas terminer la toile par endroits. Je ne sais pas, c'est une des questions qui, moi, me brûle les lèvres depuis plus d'une semaine. Est-ce qu'il y a une tentation de laisser la matière apparente? Est-ce qu'au contraire, il y a une tentation de travailler avec ce matériau brut qui est la toile de jute sur laquelle il peint? Après, c'est l'acte de création. Et l'acte de création n'a peut-être pas de raison d'être expliqué, mais voilà, moi c'est une des questions qui me brûle les lèvres, et dans ce tableau qui est l'affiche de l'exposition, on le sent très fortement, et en même temps, on a ce paysage, et ce paysage qui se dessine, qui se dissimule, qui se présente à nous et qui devient finalement cette autre réalité, cette autre dimension, ce paysage qui, à la fois peut-être pour lui, est un paysage chinois et pour chacun d'entre nous ici peut révéler autre chose, peut aller chercher autre chose, avec une palette chromatique ici qui s'est beaucoup plus assombrie et qui est, si vous connaissez un petit peu l'école de Barbizon, justement plus en adéquation avec ce côté monochromique hein, de l'école de Barbizon. Et il y a quelques petites phrases que je voudrais vous citer parce qu'évidemment, il y a mon regard, mais il y a aussi mes nourritures et notamment quelques petits textes que j'ai pu lire. Et il y a une phrase, je trouve, qui résume assez bien ce travail de Lingong et ce que j'essaie de vous dire depuis quelques minutes. On la doit à un universitaire du Québec qui a fait un très beau texte sur Lingong et il s'appelle Jean-Bernard Rouman. Et voilà ce qu'il dit. Et je crois que pour moi, on pourrait résumer ainsi son travail. En tout cas, moi, c'est ainsi que je le vois et qu'il m'est livré. Il dit « Ainsi peindre les paysages du corps ou peindre la peau des rêves, c'est toujours dessiner son paysage intérieur. » Je vous la redonne peut-être. Donc, « Ainsi peindre les paysages du corps ou peindre la peau des rêves, c'est toujours dessiner son paysage intérieur. » Et depuis tout à l'heure, c'est ce que je voudrais arriver à vous faire comprendre. C'est qu'il y a la proposition d'un peintre, il y a le voyage d'un peintre, il y a les liens que ce peintre a pu opérer dans diverses régions du monde. Il y a donc ce qu'il nous livre de lui et de très intime de lui. Et en même temps, finalement, ce que nous, intimement, chacun de nous, pouvons trouver ou voir ou discerner dans cette œuvre. Et c'est là, je crois, qu'on touche à cette idée de langage universel. C'est là que je crois qu'on touche à cette idée de poésie dans la peinture et dans l'art en règle générale. C'est quand une œuvre nous émeut sans que forcément on comprenne ce qui s'y passe. Et c'est pile ce qui se passe ici, je trouve, en tout cas pour moi. C'est qu'en la regardant, elle me pose beaucoup de questions, elle m'interroge. Et en même temps, je m'y perds, je m'y nourris et je découvre de Lingong et je découvre de moi presque aussi en regardant l'œuvre. Et donc c'est vraiment ce regard que je voulais partager avec vous ce soir. Et je terminerai sur une phrase de Lingong que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, c'est un bien grand mot, de rencontrer et avec lequel j'ai pu discuter et à qui j'ai posé beaucoup de questions et j'en ai encore beaucoup depuis que j'ai vu les nouvelles œuvres puisque comme le disait Pascal tout à l'heure, tout ce qui est présenté à Yissan, ce sont des œuvres qui ont été faites pour Yissan, donc ce sont des œuvres qui ont quelques mois, donc qui sont vraiment pour vous présentées. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que je trouve qu'elle résume tout cet esprit d'universalité. Il me dit ça en mai 2010. Il me dit plus j'avance, plus mon langage s'élargit et s'enrichit de cette double culture Orient-Occident. Aujourd'hui, je pense que rien ne distingue l'Orient et l'Occident. Les artistes parviennent à la même destination par des voies différentes grâce à leurs efforts inlassables dans leur parcours artistique et sur la base de leurs propres expériences. L'art me paraît être sans frontières, nullement divisé. Voilà, et je voudrais conclure sur cette phrase parce que depuis quelques minutes, j'essaie de vous montrer ma progression, mon regard, peut-être une façon d'entrer dans ce travail-là. Et je trouve que cette phrase, à elle seule, résume toute la présentation que j'ai voulu faire ce soir. Et je vous remercie de votre écoute.
Bien, bah écoutez, nous allons vous remercier d'être venus si nombreux pour écouter Ling parler de son art.
Cool, hein, merci.
Et bien sûr, nous vous invitons à venir visiter l'exposition du 3 juin au 26 juillet au château d'Yssan, de 10h à 17h. L'entrée est libre. Et si vous souhaitez également déguster le vin d'Yssan, il faudra simplement passer un coup de fil avant pour prendre rendez-vous. Les deux sont possibles, mais vous pouvez aussi visiter l'exposition en entrant librement dans le chai d'Yssan. Et je vous y invite. Merci beaucoup.
Merci.